Chapitre 4. À travers un labyrinthe de petites rues très blanches, très propres, très provinces, nous gagnons à pied la porte cloutée de fer de la demeure arabe où l'on nous a invités à goûter. Derrière nous, peu à peu, les rumeurs du quartier européen s'apaisent. Nous n'entendons plus le ronron des automobiles, les cris des muletiers, la joyeuse clameur de la foule qui se presse aux portes des cinémas et des cafés. Nous voici repris par le calme et le mystère de la vieille ville arabe qui se ratatine et se cache au centre de tout ce brouhaha cosmopolite. Une servante pousse le lourd verrou et nous entrons dans un petit couloir. Pour le palais d'un grand fonctionnaire du Marzen, la demeure est bien modeste. Guidés par le beau-frère du maître de la maison, nous montons un étroit escalier de bois qui donne accès à la pièce où ce dernier nous attend. Et dès le premier coup d'œil, nous comprenons pourquoi on n'a besoin ici ni de grands patios fleuris, ni de salles lambrissées de stuc. Au bout de la pièce, quelques marches mènent à un mirador vitré. De là, nos regards ravis dominent la ville, la mer, l'embouchure du fleuve que surplombe la citadelle juchée sur une falaise rouge, et plus loin encore, sur l'autre rive, la vieille et féroce rivale, la ville de neige entourée de murs couleur de miel, où, il y a 2 ans à peine, on massacrait encore les Européens. Quelques instants après, le maître se retire, emmenant avec lui l'ami qui m'accompagne, puis il revient, conduisant une jeune fille en costume arabe, mais dont la bonne figure rose et blonde proclame la parenté européenne. Le beau-frère m'explique que cette jeune fille, qui a fait ses études en Algérie, naturellement, et dont la mère est française, est l'amie intime de ces dames et nous servira de truchement. Ensuite, le maître disparaît de nouveau, et cette fois, c'est le harem qui se dérange et vient au-devant de moi. Elles sont 4 ou 5 jeunes femmes, grasses et pâles, filles ou belles-filles du ministre, accompagnées par sa femme, une belle Algérienne d'une 50aine d'années, dont les yeux infiniment tristes semblent garder le souvenir de bien des choses que les Marocaines ne connaîtront jamais. Leurs toilettes sont simples, sobres, sans recherche d'élégance exagérée. C'est, pour ainsi dire, un harem du faubourg Saint-Germain. Elles me saluent tour à tour avec une distinction parfaite. Nous nous installons dans le mirador, en face de la vue éblouissante, et l'échange des compliments commence. « Ai-je des enfants ?» Elles le demandent toutes à la fois. « Hélas, non !» En islam, une femme qui n'a pas d'enfant est considérée comme l'être le plus malheureux du monde. En Europe aussi, on plaint les femmes sans enfants. Sourire incrédule du beau-frère. Je demande, que pensent ces dames de nos tristes costumes tailleurs? Ne les trouvent-elles pas bien laids? Mon Dieu, elles pensent qu'ils ne sont pas très jolis, mais elles supposent que chez vous, vous vous habillez moins mal. Ont-elles quelquefois envie de voyager, de se promener au bazar, comme le font les dames turques? Mais non, madame, elles sont trop occupées. C'est encore le beau-frère qui parle. Car chez nous, les femmes s'occupent de leur ménage, de leurs enfants, font des ouvrages à la main, etc., etc. Cette fois, c'est moi qui lui rends son sourire incrédule. Je m'adresse à la jeune fille européenne. Alors, votre mère est française, mademoiselle? « Oui, madame. »« Et de quelle partie de la France ?»« Je ne sais pas trop, madame. De la Suisse, je crois. » Elle peut à peine balbutier quelques mots de français, et de son ascendance occidentale, il ne lui reste que les traits et le teint clair. La mentalité est déjà arabe, et elle paraît aussi complètement façonnée par le sérail que les Marocaines qui nous écoutent avec leur vague sourire résigné. Je suis dans un harem du Marzen, du monde fermé de l'aristocratie de cour. On y devine une simplicité patriarcale de mœurs, une sobriété voulue dans l'ordonnance de la vie et de la toilette. Et cependant, cette atmosphère bourgeoise que je sens ici, je l'ai retrouvée dans tous les harems que j'ai visités, même ceux où les appartements étaient bien plus vastes, les toilettes plus élégantes. Et chaque fois, j'ai constaté la même chose. Voici des femmes, disons-le franchement, dont l'unique préoccupation est de plaire au maître et qui n'ont qu'un moyen de plaire, le moyen le moins relevé par les attraits de l'intelligence ou de la fantaisie. Tous les conteurs arabes célèbrent cette constante préoccupation d'un troupeau de femmes perpétuellement concentrées sur l'unique question d'attirer à elles le mâle unique. et il n'est pas besoin de causer longtemps avec des Européens qui habitent les pays musulmans pour savoir que c'est le sujet autour duquel tournent le plus souvent les conversations entre hommes. Du reste, femmes légitimes et concubines sont étroitement associées dans la vie du harem. Rien de plus démocratique en apparence que les rapports entre ces femmes et leurs enfants. Enfants de princesses circassiennes et de négresses affranchies par leur maternité se roulent ensemble sur le même tapis, sous les yeux ravis de leur mère, accoudés sur le même divan et se passant de main en main le dernier poupon frisé qui fait la joie du harem, qu'il soit né d'une descendante des Fatimides ou d'une pauvre soudanaise clandestinement achetée au marché des esclaves. Eh bien, que voit-on, que devine-t-on sur les visages de ces femmes? Toutes, également, ont le regard et le sourire de bonnes et douces mères de famille. Sur aucun visage féminin, je n'ai découvert la moindre trace de coquetterie ou de provocation sensuelle. Même les jolies favorites du grand seigneur, dans leur mirador de faïence, avaient le regard naïf et étonné de petites mariées, dont les sens ne sont pas encore éveillés. Et ce n'est pas seulement dans les harems que j'ai constaté cette innocence du regard. J'ai vu les Ouled Naïl dans le désert algérien, j'ai assisté à des danses dans des bouges arabes de lointaines villes africaines. Eh bien, même ces femmes, dont les gestes ne laissaient rien à l'imagination, avaient une naïveté, une simplicité dans le regard qui me déroutait. Tandis que les filles européennes qui dansaient à leur côté, costumées et maquillées en Ouled Naïl, se révélaient toujours par leurs œillades provocantes, par leurs sourires de basse prostituée, les autres, les vrais, au-dessus du corps se tordant dans les convulsions rituelles, le visage naïf de petites filles sages et plutôt bêtes. Quelle est donc l'explication de ce mystère? Je ne crois pas qu'il faille la chercher dans le sentiment d'extrême décence qui ferait partie de la longue tradition des bonnes manières orientales. Certes, les Arabes de bonne souche ont une distinction suprême, une réserve qui pourrait bien être fondée sur la méfiance du guerrier nomade plutôt que sur une conception abstraite de la dignité. Mais, en tout cas, ce qui m'a frappé chez les femmes arabes, c'est-à-dire celles qui sont cloîtrées, c'est moins leur réserve et leur décence que l'absence apparente en elles de tout désir de séduire. Chez l'occidental, la réserve la plus hautaine, la décence la plus exagérée ne cache pas ce désir, au contraire. Et je mets au défi une femme tant soit peu intelligente de ne pas découvrir, dans le regard et le sourire d'une autre femme, cette qualité féminine entre toutes. Il y a un abîme entre la femme qui dissimule sa sensualité et celle qui n'est pas sensuelle. Eh bien, je ne découvre aucune sensualité dans le regard atone de ces musulmanes cloîtrées. Toutes, sans exception, elles me font l'effet de bonnes ménagères manquées. Je dis manquées, car il est notoire qu'elles ne peuvent même pas tenir une aiguille, ni préparer un plat, ni soigner leurs enfants, qu'elles couvrent de caresses, mais qu'elles ne savent pas, même dans les harems les plus aristocratiques, guérir du plus simple bobo. En tout cas, il est certain que le sentiment maternel paraît beaucoup plus développé chez ces douces créatures que le désir charnel que leur attribuent les compteurs du marché. Et à la réflexion, n'est-ce pas assez naturel? Il n'y a pas de cloison étanche entre le corps et l'intelligence, entre les passions et la pensée. L'homme occidental, en affranchissant et en exaltant la femme, a créé un être autrement redoutable et subtil que les pauvres petites concubines du Maghreb. Enfin, à l'appui de ma thèse, j'en appelle aux femmes du désert et de la montagne, aux seules femmes vraiment affranchies des pays musulmans. Ah, les sourires obliques, les regards gais et malicieux de ces fines bédouines qui ont aspiré le vent du désert et partagé le sort aventureux de leurs maris ou de leurs amants. Dans n'importe quel marché marocain, vous verrez, sur les lèvres de la pauvresse guêtrée de cuir qui vous marchande du lait de chèvre ou de la laine filée sous la tente noire, vous le verrez, ce sourire, et vous vous rendrez compte qu'il est autrement averti, autrement vivant et séduisant que celui qui pâlit sur les bouches des pauvres petites privilégiées du harem. C'est le grand air qui leur manque à celles-ci, ce sont les longues chevauchées sous les étoiles, c'est le danger et la fin de l'imprévu, c'est la lutte, enfin. Les pauvres bédouines peuvent être rouées de coups, traitées comme des bêtes de somme, méprisées et abandonnées dans leur vieillesse. N'importe, elles vont et viennent, elles causent librement avec les hommes, elles traitent de pair avec les marchands des souks, elles connaissent la vie au grand air, avec ses risques et ses labeurs, elles savent élever les bêtes, faire le fromage, tisser les beaux tapis rugueux, danser la ronde devant les tentes et panser les blessures de leurs guerriers. Ce sont des femmes, enfin, et les autres ne sont que des petites filles sages et soumises qui deviennent grand-mères sans avoir jamais vécu. On a fait, et l'on continue à faire, beaucoup de littérature autour des femmes des harems. Que ne les a-t-on plutôt regardées une fois dans les yeux ?